La photo suivante est du point de vue historique, sûrement la plus intéressante. Vous êtes au deuxième étage, exactement au niveau du pont-levis qui menait à l'entrée du donjon. Au-dessus de la porte se logeait le mécanisme du pont-levis. Les fenêtres de gauche montrent que cette disposition a été réaménagée à la fin du XIVe siècle, moment où l'île fut reprise en main par la famille de Cran et par Guy, le premier des Latrémouilles qui possédait l'île. Nous avons franchi la porte, et nous voici dans les étages nobles. La maçonnerie n'est ni belle ni régulière, mais solide. Il semble bien que, dès l'origine, toutes les pièces étaient blanchies à la chaux, ce que la restauration récente a hésité à refaire, non sans de bonnes raisons d'ailleurs. Dans la salle nord du deuxième étage, on a redécouvert récemment cette très belle fenêtre gothique. Elle avait été ouverte à la fin du XIVe, dans cette pièce qui était la pièce noble, car les gouverneurs de l'époque avaient un sens du confort différent de leurs prédécesseurs. Elle fut murée en 1520 exactement, à la suite d'une tempête. On l'accusait de laisser entrer les vents du nord et la pluie. Il est vrai qu'elle ne devait être fermée que par un simple volet intérieur. Pour la plus belle pièce, il fallait la plus belle cheminée. Sa date vraisemblable est la fin du XIVe siècle. Son style est très sobre, peu de moulures sur les jambages, deux sculptures au coin du manteau, malheureusement en assez mauvais état. Cette cheminée et son homologue au sud ont remplacé une cheminée maintenant murée au troisième étage. Voici la seule sculpture de la cheminée encore bien visible. On reconnaît aisément une sirène. La tête, martelée, est disproportionnée au reste du corps. Les bras sont grêles, l'ensemble est cependant assez plaisant. Cet animal marin avait sa place dans ce port de mer. Revenons dans la pièce du sud pour prendre cet escalier à vis qui monte dans les étages supérieurs. Il est installé dans une des quatre tours. Tout porte à croire que le mât central est d'origine, c'est-à-dire du XIVe siècle. Deux escaliers du même type et de la même époque existent encore dans des maisons de la ville. Au troisième étage, qui fut l'étage noble au moment de la construction, il y a aussi deux salles séparées par le même mur de refend qu'au-dessous. On ne sait quelle était alors la disposition de la couverture. On sait simplement que jusqu'au XVIIe siècle, le donjon avait une haute toiture d'ardoise. Dans la salle sud du troisième étage, les ouvertures sont plus nombreuses qu'au nord, et c'est normal. On voit bien à gauche les deux fenêtres qui encadrent une grande niche découverte en 1974. Des salles comme celle-ci, longues, relativement étroites, était probablement divisé en plusieurs compartiments par des tentures. Les recoins ne manquaient pas. Voici la partie sud-est de cette salle. Lucarneaux, portes, fenêtres sont aménagés spacieusement dans l'épaisseur des murs. Chaque étage présente cette disposition de coins pour multiplier les angles de tir. Dans les tourelles, à chaque niveau, on trouve trois ouvertures couvrant tout l'horizon. Le caractère roman de la construction est très apparent ici. Il n'y a que peu de recherches ornementales dans ce bâtiment utilitaire. Cependant, la sobriété de ces ouvertures rondes n'est pas sans charme. Voici comment ont été conçues les fenêtres de cette même salle. Conçues, ne l'oublions pas, pour le guet d'abord. De cet endroit, on surveillait le port, la rade, la ville, l'église. Les banquettes servaient aux hommes d'armes, mais aussi au repos, à la conversation devant un paysage agréable en plein sud. Les fenêtres rondes d'origine furent remplacées vers 1390 par ce type de fenêtre gothique où le meneau central est entouré de deux arcs trilobés masqués en partie par le châssis moderne. L'habileté des architectes et des maçons est évidente dans cette couverture en pierre d'une tour d'angle. La difficulté résidait dans le fait que le couvreur a été obligé de combiner un demi-cercle et un demi-hexagone. Ce faîtage a presque 800 ans. Son homologue s'effondra à une date inconnue et fut remplacé par cette charpente rayonnante à l'assemblage parfait. De la terrasse du donjon, on a une vue totale de l'horizon. Vers l'ouest, on voit jusqu'à l'herbaudière. La ville au premier plan montre ses couvertures en tuiles rondes et ses quelques toits d'ardoise des maisons riches comme celle de droite qui datent du début du XVIIe siècle. Au loin, l'horrible château d'eau qui rompt l'harmonie du paysage et la couronne de bois de chêne vert de la chaise et de la blanche. À l'est, c'est le monde de la mer et du sel. Le faubourg de Banzo fut, jusqu'à une date récente, presque exclusivement peuplé de marins. À droite, le cimetière des bateaux. Au fond, les marais salants, de création récente et qui occupe l'emplacement de l'ancienne rade de Luzan. Tout à fait à l'horizon, l'entrée du port et la grande rade du Bois de la Chaise. L'église au premier plan est particulièrement célèbre par sa crypte qui contenait les restes de Saint-Philbert, fondateur de Jumièges et de l'abbaye noire de Noirmoutier. Il est temps de vous montrer les collections permanentes du musée. Elles ont été rassemblées pour la plupart par les soins de la Société des Amis de l'île de Noirmoutier depuis 1934. Voici d'abord un oiseau des marais, un grèbe. Puis un goéland marron. De l'immense collection du docteur Baudouin, qui entre les deux guerres s'acquitte une certaine réputation en préhistoire, la plus grande partie intéresse surtout les chercheurs. Admirons cependant ce beau vase du XVIIIe siècle qui provient d'une église de Vendée. Hébrard, ancien maire de Noirmoutier et ancien président des Amis de Noirmoutier, a légué au musée 600 poteries anglaises, assurément la plus importante collection de France. Ces poteries sont plus communément connues sous le nom de poteries de Jersey, l'île où les caboteurs français allaient s'approvisionner. Très nombreux sont les foyers noirmoutrins qui possèdent une ou plusieurs pièces. Les principaux centres de production étaient dans l'Angleterre du Nord, du Centre et de l'Ouest, Newcastle, Leeds, Sunderland, Swansea. Commencée vers 1750, la production cessa autour de 1875. Voici une théière au brin métallisé, la panse est traitée en bleu tendre, le couvercle en bleu sombre. Dans cette autre théière, les fleurs blanches et vertes de la panse apportent la note de fraîcheur dans un ensemble orange et brun. Ce pot à lait est caractéristique de la fin de la production. La mode des reflets métalliques a été supplantée par celle des sujets imagés. Ici, le trois-mâts Northumberland vogue allègrement sur une mer vert pâle. Voici enfin un pot à eau ou à crème, probablement de la fin du XVIIIe siècle, dont seul le gros bec verseur compromet un peu l'incontestable harmonie. Revenons à l'histoire, et particulièrement à une période où, bien malgré elle, l'île fut plusieurs fois au centre des événements. 4 mois furent terribles, les 3 derniers de 1793 et le premier de 1794. Les Vendéens insurgés voulaient à tout prix s'emparer d'un port pour communiquer avec l'Angleterre et les princes émigrés. Les Républicains, évidemment, étaient d'un avis contraire. La masse de la population était plutôt favorable aux Républicains, mais les Royalistes avaient de nombreuses intelligences dans la place. L'île changea plusieurs fois de main pour demeurer finalement républicaine, ce qui, vraisemblablement, la sauva de la destruction totale. Voici quelques-uns des principaux protagonistes. Le général Besser, un des nombreux Alsaciens de l'armée républicaine, commandait les armées de l'Ouest. Il avait déjà occupé Noirmoutier en avril 1793 et fut toujours un adversaire de Charette. Celui-ci n'a pas besoin d'être présenté. C'était un des rebelles les plus tenaces et les plus talentueux. Dans son état-major, nombreux étaient ceux qui avaient des attaches à Noirmoutier. Et dans son armée, les gens de Barbade s'engagèrent en foule quand il prit l'île en octobre 1793. Ils le payèrent souvent de leur vie, et à cause d'eux, les Républicains bâtirent 80 maisons à Barbâtre en janvier 1794. Charette lui-même fut fusillé à Nantes en 1796. Parmi les blessés de la bataille de Cholet, le 17 octobre 1793, il y avait Delbé, atteint de 14 blessures. C'était le généralissime des armées vendéennes. Il fallait lui trouver à tout prix un asile sûr. On pensait à Noirmoutier, et ont mis dans l'île une garnison de 1500 hommes. Malheureusement pour les royalistes, les républicains étaient maîtres de la mer, et ils réussirent à monter à la fin de décembre 1793 une opération navale et terrestre d'assez grande envergure, commandée par les généraux Dutruy et Haxo, et appuyée par 3 conventionnels en mission. L'opération réussit facilement, car la garnison se rendit vite, le 2 janvier 1794. Son sort fut vite réglé. Tout le monde devait être fusillé, et le fut, après un jugement rapide par le comité révolutionnaire. Ceci se passa dans un petit périmètre entre l'église, le château et la place d'armes. Le 8 janvier, et non le 6, comme il est indiqué sur la gravure, on dressa les poteaux d'exécution pour De Boissy, d'Autrive et Vielan, républicains accusés de trahison. On assit Delbé sur un fauteuil, et non sur une chaise. En quelques minutes, tout fut terminé. Cette gravure est très fantaisiste, mais est la preuve du retentissement de l'événement. Le tableau de Leblanc est plus exact pour ce qui concerne les circonstances de la mort de Delbé, sans représenter plus fidèlement les lieux de l'exécution. Nous terminerons par une photographie du fauteuil qui soutint Delbé dans ses derniers moments. Il a été donné en 1973 aux amis Noirmoutier par le marquis Delbé. Il faisait partie de l'ameublement de l'hôtel Jacobsen sur la place d'Armes, devant le château. C'est, croyons-nous, un objet très émouvant qui mérite la place d'honneur dans le musée que vous allez maintenant visiter. Nous vous souhaitons un bon séjour à Noirmoutier.